Chapitre 9. Croiserelle triomphe. Un manteau de voyage jeté sur ses épaules nues, les cheveux défaits, le visage luisant, l'ex-comtesse de Juilly était assise dans le bureau du commissaire. Le bruit s'était répandu rapidement à la police judiciaire de l'arrestation sensationnelle à laquelle avait procédé Croiserelle. Aussi son bureau était-il trop petit pour contenir tous les inspecteurs, les brigadiers, commissaires du quai des Orfèvres, venus à la fois pour le féliciter et pour assister à l'interrogatoire de Marie-Louise Favrin. « Vous pensiez, demanda Croiserelle, que j'allais vous prendre pour la comtesse de Juilly? Vous êtes vraiment naïve !» Marie-Louise ne répondit pas et se mit à pleurer. À ce moment, la sonnerie du téléphone retentit. C'était Monsieur Lejeune, le directeur de la police judiciaire, qui tenait à féliciter le commissaire. « Eh bien, Madame Favrin, expliquez donc à ces messieurs comment le comte de Juilly a tué sa femme. » Mais Marie-Louise était incapable de parler. Des sanglots jaillissaient de sa gorge. Quand elle s'interrompait, c'était pour pousser des cris déchirants. Croiserelle, devinant dans quelle détresse était plongée cette femme, se radoucit. Il s'approcha d'elle, la prit par les épaules, lui fit chercher un cordial. « Allons, ma petite, il ne faut pas vous laisser abattre. Je sais bien que vous êtes innocente. Vous avez été victime de votre bon cœur. Les juges le sauront. Allons, Marie-Louise, déchargez votre conscience. » Madame Favrin regarda le commissaire avec reconnaissance. Son visage s'éclaira. Elle repoussa le verre que lui tendait un inspecteur. « Ce n'est pas la peine, » dit-elle. Puis, d'une voix à peine plus forte qu'un souffle, elle commença le récit suivant. « Je savais bien, monsieur le commissaire, que personne ne serait dupe de la comédie que le comte m'a obligé de jouer. J'ai longtemps refusé, mais il était la proie d'une telle inquiétude que finalement je n'ai pu résister à ses prières. »« Commencez par le début, » interrompit Croiserelle. « Par où vous voudrez, monsieur le commissaire ? C'est en mai 1927 que nous sommes entrés, mon mari et moi, au service du comte et de la comtesse de Juilly. » Bien que nous fussions des jeunes mariés, nous ne nous entendions guère. Pourtant, nous étions très heureux dans notre nouvelle place. Madame de Juilly était une femme de grand cœur et elle avait pour nous des attentions que nous n'avions jamais trouvées ailleurs. Le comte, lui, était gravement malade. Deux fois par an, il partait pour la Suisse où il restait plusieurs semaines. Lors de notre entrée au service de Madame de Juilly, celle-ci étant souffrante, nous passâmes le mois de septembre à Vichy. C'est là que je fis connaissance de Jean Secouteux. Mon mari était dur, violent, autoritaire. Jean sut me prendre par la douceur, par la tendresse, et je devins sa maîtresse. La comtesse de Juilly me témoignait tellement d'affection que je le lui avouais en pleurant. Elle me réconforta, me dit qu'il était naturel qu'une femme qui ne trouvait pas l'amour auprès de l'être qui partageait son existence le cherchât ailleurs. Je compris par la suite qu'elle avait également un amant. Un jour, elle m'envoya même le prier de ne pas venir à un certain rendez-vous qu'elle lui avait donné, son mari s'étant trouvé mal. Une dizaine de mois après ce séjour à Vichy, la comtesse mettait au monde un garçon à l'insu de son mari, alors en Suisse depuis janvier. Une semaine plus tard, j'accouchais également d'un enfant que mon mari crut le sien. Malheureusement, le pauvre petit ne vécut pas. Ce fut à ce moment que la comtesse, qui appréhendait le retour du comte, eut l'idée de faire passer son fils pour le mien. Elle me confia donc son enfant, me fit jurer de ne jamais le dire à personne. Puis, comme il m'était difficile, tout en assurant mon service, de m'occuper du bébé comme la mère l'eût désiré, elle nous fit venir, mon mari et moi, et nous proposa de nous retirer dans les environs de Paris. Elle nous achèterait une petite maison et nous ferait parvenir une mensualité. Cette idée, comme bien vous le pensez, nous enchanta. Mais, en échange, elle nous demandait de nous consacrer uniquement à son enfant et de ne jamais confier son secret à qui que ce fût, même à nos plus proches parents. C'est pourquoi, monsieur le commissaire, ma sœur, ainsi que Secouteux, ne surent jamais ce qui était arrivé. Malheureusement, dans l'oisiveté, mon mari contracta des habitudes de jeu. La pension que nous faisait parvenir la comtesse ne lui suffit bientôt plus. Malgré mon opposition, il demanda qu'elle fût augmentée de 500 francs. La comtesse accepta. Deux fois par semaine, elle venait à Viroflay voir son enfant. Elle avait confiance en moi. 2 ans plus tard, dans un tripot, mon mari perdit une somme qu'il n'avait pas. De nouveau, il m'obligea à intervenir auprès de la comtesse. Elle se montra encore conciliante. Tout alla ainsi, tant bien que mal, jusqu'au mois de décembre 1931. À ce moment, les exigences de Marcel devinrent telles que je songeais à le quitter. Je sentais qu'une catastrophe était dans l'air. Le comte se portait mieux et habitait à Paris depuis plusieurs mois. Il avait remarqué les absences régulières de sa femme. D'autre part, des pertes d'argent l'avaient amené à vérifier ses livres. Il interrogea sa femme, qui lui répondit qu'elle n'avait pas de comptes à lui rendre. Elle était de plus en plus nerveuse, d'autant plus que l'amour qu'elle avait pour son fils s'était transformé en adoration. Le jour de l'an arriva. Malgré sa parole, Madame de Juilly ne put nous verser la gratification qu'elle nous avait promise. Elle vint le 2 janvier. Au cours d'une scène violente, mon mari, à demi-ivre, la lui réclama. Pour la première fois depuis que nous la connaissions, elle se mit en colère. Je me souviens encore de ses paroles. « Comment, dit-elle à mon mari, pour me remercier de vous avoir acheté une maison, de vous faire parvenir chaque mois de l'argent, vos exigences grandissent tous les jours ? C'est incroyable, c'est du chantage !» Malheureusement, la pauvre madame ne se trompait pas. Le jour même, sans rien me dire, Marcel écrivait au comte. Je n'ai jamais lu cette lettre et j'en ignore entièrement le contenu. Tout ce que je sais, c'est que le jeudi suivant, alors que la comtesse et moi nous nous trouvions dans la chambre du petit Jean, on sonna à la porte d'entrée. J'entendis mon mari crier « Descends ouvrir !» Il était 5 heures environ. La nuit était déjà tombée. Aussi ne distinguai-je pas le visage du visiteur. Il s'avança et je ne pus retenir un cri strident. « Qu'est-ce que tu as ?» interrogea Marcel qui descendait l'escalier. Le comte était là. Il était très pâle. Tout de suite, il me demanda où était sa femme. Je ne répondis pas. Ce fut Marcel qui prit la parole. « Nous allons voir, dit-il. Entrez au salon, monsieur le comte. » Monsieur de Juilly obéit. « Qu'as-tu fait ? Est-ce que tu es devenu fou ? » criai-je dans l'oreille de mon mari lorsque nous fûmes seuls. « C'est tout naturel qu'il connaisse cet enfant, » me répondit-il. À ce moment, nous aperçûmes Madame de Juilly. Attirée par le bruit, elle s'était avancée sur le petit palier du premier étage. « Votre mari est là !» criai-je malgré moi. Je me souviendrai toute ma vie de l'expression qui se peignit alors sur son visage. Immobile, les yeux fixés sur moi, elle avait paru ne pas comprendre ce que je lui disais. Quelques secondes s'écoulèrent ainsi, dans un silence dramatique. Puis elle entr'ouvrit la bouche. « Où est-il » demanda-t-elle. « Il est dans le salon, » répondit mon mari sur un ton méchant. Alors, très calmement, sans même me regarder... Arrivée à ce passage de son récit, Marie-Louise fut prise d'un tremblement. Elle voulut continuer, mais les sons qui sortirent de ses lèvres n'eurent rien d'humain. Finalement, elle put reprendre. « Oui, sans même me regarder. Madame est morte en croyant que j'étais complice de mon mari. Je l'ai bien senti quand elle est passée devant moi comme si j'étais une étrangère. Très droite, elle est entrée dans le salon. Nous la suivions à quelques pas. Je me demandais s'il n'était peut-être pas plus discret de les laisser seules lorsqu'une détonation claqua. La voix de la comtesse s'éleva. Elle disait, cette voix que je n'entendrai plus jamais, « Qu'est-ce que vous faites ?» Mais une autre détonation retentit. Le visage caché dans les mains, j'entendis le bruit d'une chute, des râles, puis plus rien. Vous dire ce qui s'est passé par la suite, monsieur le commissaire, vous le devinez. Je voulus appeler au secours, crier, mais mon mari m'en empêcha. Le comte avait perdu la tête. Il courait dans la maison comme un fou. On entendait au premier étage l'enfant qui pleurait. Finalement, les deux hommes s'entretinrent à voix basse. J'étais à demi inconsciente. Je ne me rendais plus compte de ce qui s'était passé. Mon mari me conduisit, en me soutenant, auprès de l'enfant. Puis il redescendit. Que firent les deux hommes à ce moment, je ne pourrais le dire. Tout ce que je sais, c'est que, longtemps, je les entendis aller et venir dans le jardin. Le lendemain, j'interrogeai Marcel sur ce qui s'était passé. Il me répondit que la comtesse n'avait été que légèrement blessée et qu'elle était rentrée à Paris avec son mari. Puis, me prenant brusquement par le poignet, il ajouta Ce n'est pas vrai, elle est là, dans le jardin. À partir de ce moment, je n'ai plus qu'un désir, quitter cette maison. Je télégraphiais à ce coûteux. Je savais qu'il tenait beaucoup à moi et aux petits gens dont il ignorait la mort survenue peu après mon accouchement. Je résolus donc de le rejoindre. Le dimanche, sans rien dire à mon mari, chargé d'un maigre baluchon, je pris Jean sur mon bras et je partis pour Paris. « Comment se fait-il, interrompit Croiserelle, que vous ne vous soyez pas servi de votre belle valise initiale ?»« C'était, monsieur le commissaire, un cadeau de madame de Juilly. Depuis la mort de ma maîtresse, je ne voulais plus penser, plus voir quoi que ce fût qui me rappelait le drame. »« Vous avez bien gardé le petit Jean. »« Il le fallait, qu'eût dit ce coûteux si j'étais arrivé sans l'enfant qu'il considérait comme le sien. » »« Continuez. » Et c'est aujourd'hui que le drame s'est dénoué. À la lecture du journal de ce matin, je compris que j'allais être arrêté. Jean Secouteux vous a sans doute raconté ce qui se passa entre lui et moi. Une fois dans le taxi avec l'enfant, je m'aperçus que je n'avais pour toute fortune que quelques francs. Je ne savais où aller. Le pauvre petit pleurait. Je résolus de téléphoner à M. de Juilly. Il ne savait encore rien. Quand je lui eus appris que le cadavre de sa femme venait d'être découvert, mais qu'on croyait que c'était moi, il se mit à balbutier dans l'appareil. Finalement, il me pria de l'attendre. Un quart d'heure après, il venait me chercher dans le café d'où je venais de lui téléphoner. Il comprit tout de suite que dans l'état où j'étais, je n'allais pas tarder à attirer l'attention sur moi. Il m'assura alors que si je voulais consentir à lui obéir, on ne saurait jamais la vérité. Il me révéla qu'il avait promis à Marcel, le jour du drame, la moitié de sa fortune s'il acceptait de devenir son complice. Il m'assura encore que Marcel ne parlerait pas, que son intérêt était de paraître tout ignoré. Quant à moi, il fallait que je disparaisse le plus vite possible. Il me conduisit donc chez lui, me donna des robes. « Et vous avez accepté de jouer cette comédie ?»« Oui, monsieur le commissaire, j'avais peur. » Je croyais qu'on allait m'accuser d'avoir assassiné ma maîtresse, puisque je n'avais pas parlé tout de suite après le crime. Et puis, j'étais tellement certaine qu'on ne me découvrirait pas, que l'affaire en resterait là. Mais l'après-midi, le comte vint me trouver. Il était méconnaissable. Un inspecteur est venu chez moi, il veut absolument parler à la comtesse, me dit-il. Ce fut à ce moment que l'idée de me faire passer pour sa femme lui vint. « Vous connaissez le reste. » Il vous confia même les bijoux de madame de Juilly, observa Croiserelle. Oui. Où sont-ils? Marie-Louise porta machinalement la main à son cou. Elle poussa un cri. Ne soyez pas surprise de leur disparition, dit le commissaire. Il alluma une cigarette, puis ajouta. Faites entrer ce coûteux. Quelques secondes après, le violoniste apparut, encadré par deux inspecteurs. « Victor, fit le commissaire en souriant, prenez donc les bijoux qui se trouvent dans la poche droite de ce monsieur. » Ce coûteux avait, en effet, profité d'un moment d'inattention pour subtiliser les bijoux.